Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Conseil de famille, un numéro consacré aujourd'hui au jeu. Alors une petite définition pour commencer, le jeu est une activité volontaire que l'on fait seul ou à plusieurs, séparée, c'est-à-dire isolée du reste de l'existence, c'est comme ça que je l'ai trouvé, comportant des règles fixées librement ou de manière plus arbitraire. Improductive, une activité improductive, bah oui c'est vrai, hein, si ce n'est que de se faire plaisir au fond. Et puis incertaine, on n'en connaît pas la fin, qui va gagner, vers quoi allons-nous, etc., etc. Voilà, le jeu chez l'enfant c'est essentiel, c'est une dimension très importante qui lui permet d'acquérir de nombreuses compétences pour apprendre et comprendre le monde qui l'entoure. Au-delà du développement intellectuel, il permet aussi de se socialiser, et ça à tout âge. Et enfin, participe au développement moteur et sensoriel, ainsi qu'au développement du langage. Pour en parler aujourd'hui des joueuses, j'espère, à cette table, bonjour à toutes. Alors, on accueille Anne-Marie, qui est coordinatrice du programme de réussite éducative en Lot-des-Voies. Bonjour Anne-Marie.
Bonjour.
Valérie Orvin de l'association Grandir Ensemble, association de soutien à la parentalité et de formation professionnelle. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Et puis on accueille aussi Béatrice Alvar qui est coordinatrice et psychologue pour l'école des parents et des éducateurs.
Bonjour.
Et puis nous avons quelqu'un dont le métier c'est de jouer, c'est merveilleux ça quand même. Hein, c'est Vassilia, alors j'espère que je vais bien prononcer ton nom de famille, Vassilia Conil-Lacoste, de la Compagnie des Jeux. Bonjour Vassilia.
Bonjour.
Bienvenue.
Merci.
Alors, une petite question avant de démarrer ce débat autour du jeu. Mesdames, quel est votre jeu préféré? Ou avez-vous le souvenir d'un jeu qui vous a marqué, peut-être dans votre enfance ou plus récemment?
Ah ben oui, moi petite, j'adorais jouer à la corde à sauter, à la grande corde, à l'élastique et tous ces trucs-là.
T'étais forte.
Ouais, j'étais forte et j'adorais ça.
À qui le tour, Béatrice?
Ben, moi, ce que je préférais, c'était les jeux qui faisaient appel à l'imaginaire. Voilà, avec un manteau, on transformait ça en robe de princesse, on faisait des petits sketchs. C'est ce que je préférais.
J'ai beaucoup joué au Lego et après j'ai des très bons souvenirs d'un jeu de société qui s'appelait Pékin Express où on adorait jouer avec ma sœur, donc c'était parti.
Ça c'était peut-être des pré-ados ou ados
Non, on va dire vers 8-10 ans, on commençait à jouer à des jeux de société, voilà, avec nos parents aussi, hein, mais je ne voulais pas toujours jouer non plus. Mais...
Et enfin Vassilia, quel est ton jeu préféré? C'est peut-être compliqué comme question, hein.
Alors oui, ça change assez fréquemment. Chaque fois qu'on en achète de nouveaux, on les découvre comme si c'était Noël. Je crois que j'aimerais bien continuer à jouer aux pirates, mais c'est moins toléré quand on est adulte.
Bon. Alors, la Compagnie des Jeux, vous êtes installée à l'ODEF, ça fait un petit moment déjà.
À l'ODEF depuis 2012.
Oui.
Mais on avait une activité sur l'ODEF bien avant, puisqu'on existe depuis 2002.
D'accord.
Mais avant, on était basé sur Montpellier, puis après sur Agnan. Et puis, comme notre activité s'est développée en itinérance, on a travaillé très vite sur l'ODEV.
Pour préparer cette émission, on a parlé notamment des jeux symboliques. Béatrice, tu disais par exemple que toi, ton jeu, c'était quand tu aimais te déguiser, te transformer en princesse, être quelqu'un d'autre. Mais c'est justement ça, le jeu symbolique, hein ?
Oui, tout à fait, oui.
Et ça participe au développement de l'enfant. On peut dire en quelques mots ce que ça signifie, tout ça?
Le jeu évolue tout au long de l'existence et tout au long de l'enfance. Derrière jeu symbolique, on peut mettre beaucoup de choses. Ça dépend du moment, voilà. On peut dire qu'au tout début... le jeu, c'est quelque chose d'universel. On le partage avec les autres mammifères, par exemple. Tous les petits jouent. Tous,
oui.
tous. Les petits singes, tous. Et donc, comme tu le rappelais en introduction, le jeu, en même temps, c'est une affaire sérieuse. C'est paradoxal ce que je vais dire, mais c'est quelque chose d'extrêmement sérieux pour l'enfant parce que ce qui lui permet vraiment de découvrir le monde, d'apprendre, c'est sa base. Voilà, c'est vraiment sa base.
Et
c'est presque comme, on va dire que c'est presque comme un besoin vital, comme le besoin de manger, de dormir, etc. Le besoin de, on peut parler de besoin de jeu.
Oui, on dit d'ailleurs que des enfants qui vont pas très bien ne jouent pas. Ça, c'est un des premiers signes qu'on peut repérer. Quand les enfants rentrent de l'école, ils aiment bien jouer et peut-être refaire ce qui s'est passé dans la journée à l'école, tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Valérie?
Oui, c'est quelque chose que les enfants font, effectivement. Alors, ça nous permet, nous, les parents ou les accompagnants, de pouvoir observer et de voir un petit peu ce qu'ils ont vécu, en fait. Parce qu'ils reproduisent encore, encore et encore pour intégrer les choses, pour se les approprier, pour comprendre aussi ce qui s'est passé au moment où ça s'est passé. Donc, ils rejouent, effectivement, ce qu'ils ont vécu. Et puis, à partir de là, bah, il y a toute la créativité, toute l'invention, tout l'imaginaire qui se met en place. Et avec un manteau, on fait une robe de princesse, quoi. On en arrive là. Voilà.
À partir de quand les adultes doivent-ils intervenir dans tout ça? Est-ce qu'ils doivent intervenir, d'ailleurs?
Alors, il y a plusieurs... on pourrait dire qu'il y a plusieurs postures pour un adulte. On peut effectivement laisser jouer les enfants. Et ça, juste, voilà, on ouvre un espace et puis ça joue. On peut jouer avec eux. Et ça, c'est voilà, quand on partage un jeu de société ou bien que l'enfant nous dit « Alors toi, tu vas être le cheval, je monte sur ton dos, etc. » Donc, je vais jouer avec. Je peux donner à jouer, c'est-à-dire que je vais observer le stade de développement de l'enfant. Si mon petit, c'est le moment où il jette tous les objets qu'il trouve, bah, je vais lui donner des ballons, je vais lui fabriquer un chamboule-tout, je vais faire des choses pour qu'il puisse jeter. Si je le vois taper, je vais lui donner de quoi taper. Plus tard, s'il passe sa vie à courir, je vais pas lui dire « Arrête-toi, je vais l'emmener dans un endroit pour courir, on va faire la course, etc. » Voilà. Quand on observe les enfants et ce qu'ils sont en train de faire, on peut imaginer ce qu'on peut leur donner à jouer, par exemple. Et puis la dernière posture, eh bien, c'est de faire jouer, c'est-à-dire je vais organiser un jeu où je vais donner aux enfants quelque chose à faire et je vais, par exemple, c'est quand j'organise une balle aux prisonniers, un truc comme ça, voilà, ce genre de jeu. Donc il y a plusieurs postures, en tout cas c'est important de pouvoir laisser jouer les enfants et de jouer avec eux quand on est parent. Les enfants adorent ça, jouer avec leurs parents. Alors des fois on sait pas trop à quoi jouer quand on est un adulte, puis des fois ça nous gonfle un peu les petites voitures ou les Lego ou jouer à la poupée ou boire une fausse tasse de thé ou des trucs comme ça. C'est important aussi qu'en tant qu'adulte on puisse faire des choses qu'on aime faire, partager avec nos enfants les jeux qu'on aimait quand on était petit. Et puis bah des fois juste on se dit allez, je pars avec lui dans son jeu ou avec elle dans son jeu et j'y vais, je partage ça. Et ça, c'est des choses qui vont nourrir le réservoir, qui vont remplir le fameux réservoir d'affection, la chose qui fait que ça va calmer le cerveau, que ça va nourrir le cœur et qui fait qu'après on est plus apte, toujours pareil, à accepter les règles et à supporter les frustrations.
Alors justement, quand ils rentrent de l'école, c'est important peut-être de les laisser jouer, oui, plutôt que de les mettre direct au devoir ou
Très. Hein, voilà. Très, très, très. Effectivement, et avec, je te laisse la parole juste après, mais c'est important de moi, ce que je dis aux parents, c'est important de donner un espace à l'enfant pour qu'il puisse se défouler un peu, hein, parce que toute la journée, il a été, il a fallu s'asseoir, il a fallu se laver les mains, il s'est contenu, et du coup, on va plutôt emmener les enfants dans des endroits où ils peuvent jouer librement, y compris pas un toboggan où la règle serait de monter par l'escalier et de descendre par la glissière. Moins il y a de règles à ce moment-là, le mieux c'est.
Sur ce jeu, monte par la glissière et descend par l'escalier.
Si c'est possible, mais si sur ce toboggan-là, c'est pas possible de faire ça, alors on va pas emmener les enfants
oui,
là.
Oui, tu veux dire ce que voilà, dire, il faut voilà. Que ce soit très libre finalement,
oui, exactement,
qu'on intervienne
pour un peu,
peut-être
voilà,
peu.
Se décharger et se lâcher un peu. Ouais, c'est important.
Alors sur ces jeux actifs là, Vassilia ou symboliques, voilà, vous accompagnez des enfants ou vous êtes exclusivement sur des jeux de plateau, des jeux comment ça se passe à la compagnie des jeux?
Alors justement, on essaye de valoriser et de faire reconnaître l'importance de tous ces jeux dits sans règles, en fait, qui sont pas les règles posées par les adultes, comme on va retrouver dans un jeu prédéfini et le jeu de société, qui est souvent extrêmement valorisé par les adultes parce qu'on a notre place, en fait, on régule, on explique, on cadre. Et pour rejoindre Valérie, effectivement, l'espace de jeu libre, et le jeu libre, c'est le jeu aussi qui est librement choisi, en fait. L'enfant va aller vers ce dont il a besoin. À un moment, il a besoin peut-être de vivre. Voilà, c'est un lapsus, mais qui est révélateur. Pour l'enfant, le jeu, c'est sa vie. Et donc, s'il a besoin, à un moment, d'être dans un jeu calme, comme tu l'expliquais dans la définition du jeu, en introduction, le jeu doit être volontaire, choisi, librement choisi, pour que l'enfant puisse pleinement s'exprimer et pleinement exprimer ses émotions, ses compétences intellectuelles, ses désirs et sa communication. En fait, le jeu, c'est l'espace de la rencontre, vraiment, et parfois de la rencontre avec soi. Il y a des moments où j'ai besoin d'être seule sur mon jeu imaginaire, sur mon jeu avec mon ami imaginaire, sur mon jeu avec ma poupée, et parfois, plus tard, sur un jeu casse-tête qui va me permettre de répondre à d'autres besoins. Voilà. Donc, oui, nous avons des espaces aussi de jeux symboliques, et on invite l'ensemble des collectivités ou des structures culturelles ou éducatives à conserver ces espaces et à aller au-delà du jeu de la dinette, qui est très important aussi, hein, puisque l'enfant va rejouer le monde adulte, en fait, pour se l'approprier. L'espace de jeu, c'est l'espace qu'il maîtrise. Et c'est l'espace qui lui permet de calmer son angoisse, de calmer son agressivité. Et donc, c'est très important que ces jeux-là existent longtemps. On n'est pas un bébé à 7 ans, à 8 ans, quand on continue à aller jouer avec des poupées, quand on continue à aller jouer à la dinette, qu'on soit fille ou garçon.
D'ailleurs, on prolonge ça, on disait tout à l'heure, avec les gens qui continuent à faire du théâtre, par exemple.
C'est un bon exemple. On peut dire qu'il y a un philosophe qui disait que tout part du jeu et tout revient au jeu, en fait.
Béatrice, est-ce que dans tes consultations, par exemple, toi qui vois des petits, est-ce que tu utilises le jeu ?
Bien sûr, c'est un des outils principaux du psychologue, de jouer. Parce que effectivement, comme venait de le dire Valérie, un enfant, en fait, il contrôle pas beaucoup de choses dans sa vie. Voilà, il en subit beaucoup. Par contre, parce qu'il est encore en état de dépendance, il acquiert son autonomie petit à petit. Donc par le jeu, il va exprimer beaucoup de choses. Il va intégrer beaucoup de choses. Il va dire beaucoup de choses. Donc on joue beaucoup, nous les psychologues, avec les enfants, bien sûr. C'est la voie royale pour leur permettre d'avoir accès à eux, voilà, de se connaître, comme disait Vassilia. Donc oui, c'est fondamental, le jeu. Les psychologues, ils se baladent toujours avec un grand sac avec des jeux.
Je rajouterais, c'est fondamental à tous les âges de la vie, en fait.
Oui, tout à fait. Et à quel moment intervient le jeu compétition, le jeu où on veut gagner ? Alors ouais, on dit toujours il y a les bons et les mauvais joueurs, les mauvais perdants. Hein. On les rencontre comme ça dans les familles, par exemple. On sait que tel frère est mauvais perdant, qu'on peut pas jouer avec lui, que ça va être compliqué. Il y a même des parents qui laissent gagner leurs enfants. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça, Valérie ?
Je veux bien dire quelque chose à propos de laisser gagner les enfants. C'est important quand ils sont tout petits de laisser gagner les enfants, sinon après ils ont plus envie de jouer, en fait. Juste ça. Et que petit à petit, ils grandissent et que là, plus ils acquièrent des compétences, des connaissances, etc. sur ce jeu en particulier, plus on va pouvoir vraiment jouer et nous confronter si c'est un jeu compétitif. On va pas le laisser gagner ad vitam, je veux dire, mais c'est important au début, parce que si on fait une partie de foot ou n'importe quoi avec un gamin et que tout le temps il met jamais un but et qu'il en prend plein, il viendra plus jouer. Enfin, je veux dire, voilà. Donc c'est à nous de réguler ça sur laisser gagner ou pas, quoi. Après, il existe beaucoup de jeux coopératifs aujourd'hui, mais je vais te laisser parler sur les jeux compétitifs.
Alors moi, j'ai essayé avec le temps, hein, de bannir le mot de mauvais joueur, de mauvaise joueuse. Pour moi, il y a un moment, on apprend à jouer, mais dans le sens, on apprend un art de jouer, en fait. Et pour essayer de conserver ce plaisir du jeu et ce plaisir de la rencontre et de la communication que je vais avoir avec l'autre, en fait. Et du coup, effectivement, des adultes écrasants dans un jeu, il y a beaucoup d'adultes qui nous disent « moi, j'aime pas jouer » ou « c'est pas mon truc ». Et en fait, quand on creuse un peu, ils ont des très mauvais souvenirs, effectivement, de jeu.
Absolument. Je confirme, j'avais un frère qui trichait.
Voilà, avec d'autres enfants très dominants et des endroits où, effectivement, ça n'a pas été régulé à un moment donné. Et où, du coup... Ce qui se joue, c'est important aussi pour ces enfants-là. Il faut pouvoir le voir. Hein. Souvent, les enfants qui refusent de perdre font éclater le jeu à un moment donné, puisque c'est trop difficile l'image que ça leur renvoie. C'est des gens qui sont des enfants ou des gens qui sont dans une insécurité en fait, en termes d'identité, en termes d'affection. Bon, je laisserai peut-être Péatrice un peu plus expliquer ça. Donc pour moi, il n'y a pas de mauvais joueur. C'est surtout, il faut trouver le bon jeu. Il va falloir trouver le jeu qui va permettre de valoriser l'enfant ou l'adulte ou l'adolescent. Et c'est pour ça que c'est pas ne rien faire que de laisser les enfants jouer et de les observer, ou les adultes aussi, les groupes, quels qu'ils soient. Parce que c'est là qu'on va comprendre aussi comment intervenir, comment réguler. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, Valérie, il y a un moment, l'adulte, quand il va jouer avec, dans le jeu, alors c'est plus facile dans le jeu de société, mais pas que, il va transmettre une façon de réagir aussi. Une façon de réagir, et il va, effectivement, avec subtilité, peut-être, induire discrètement la possibilité à certains de reprendre un petit peu le déçu ou de valoriser ou de dire aux autres à un moment donné, parce qu'il y a un tout petit qui n'a pas le même âge et qui va pas pouvoir, qui pourra jamais toucher une carte dans un jeu de rapidité, par exemple. Mm-hmm. Bah, peut-être que ça peut être intéressant pour qu'il continue à jouer avec nous. Bah, allez, on va attendre 3 minutes et on va valoriser les plus rapides en leur disant, toi, tu vas avoir un challenge un peu plus haut parce que toi, tu vas avoir 30 secondes ou 5 secondes en moins. Voilà. Mmh. Et là, ça va permettre de garder le plaisir du jeu commun.
Mais quand tu dis ça, c'est aussi très important d'adapter le jeu à l'enfant et pas le contraire. On va pas faire jouer enfin c'est compliqué, des ados, des tout petits qui vont jouer ensemble s'il y a pas de bienveillance, etc. C'est un coup à dégoûter le petit, peut-être.
Tout à fait. Le jeu doit rester valorisant et un instant de plaisir. Ouais.
Parce qu'après, on rentre dans des histoires de compétition, de rivalité. C'est-à-dire que perdre, c'est pas rigolo. Hein, c'est plus sympa de gagner. Donc effectivement, il y a tout ça à mettre en place de la part de l'adulte pour autoriser le jeu, c'est ce que tu disais, permettre aux enfants de se réguler, intervenir s'ils ont besoin qu'on les aide à se réguler et faire en sorte que le jeu reste un jeu et qu'on soit plus dans quelque chose de l'émulation et de la coopération plutôt que dans la compétition, parce que la compétition, les grands joueurs, ils en parlent, hein. C'est quelque chose qui peut avoir beaucoup d'impact sur l'estime de soi, la sécurité psychique et affective.
Oui,
je veux juste rebondir sur ce que tu viens de dire, effectivement. C'est comment je vais me comporter, moi, en tant qu'adulte, par exemple, quand je perds le jeu. Je vais dire, je vais montrer la modélisation, toujours pareil, et je vais dire, oh là là, j'ai perdu, vraiment, j'aime pas ça, perdre, c'est pas rigolo, hein. Bon, allez, je vais être bon joueur, et puis, allez, je vous serre la main, vraiment, je vous félicite, parce que là, beau jeu, bravo. Voilà. Et donc, je vais montrer l'exemple, je vais jouer ça, en fait, pour que les enfants puissent s'en emparer. C'est important.
Je peux juste.
Oui, oui.
Je crois aussi que surjouer, effectivement, à ce moment-là, son émotion, c'est reconnaître qu'elle a le droit d'exister. Exactement. Effectivement, le désir de gagner, il est important et il existe, effectivement. Et les jeux de compétition, il ne faut pas les interdire, en fait. Ils font partie, effectivement, de la vie, en fait. Notre société est quand même une société de cette nature-là. On créerait des êtres qui seraient un peu, comment dire, pas suffisamment armés, entre guillemets. Armée, c'est pas un bon mot, Valérie, mais je sais, mais j'en ai pas trouvé
équipé,
d'autres.
Équipé,
merci. Équipé.
on a compris le principe.
Voilà.
L'idée.
Merci. Et parfois, on a des personnes qui ne veulent jouer qu'à des jeux de coopération, ce qui n'est pas forcément non plus la panacée.
Oui, ça veut peut-être dire que voilà, ils sont très insécures à l'idée de perdre ou de jouer seul quelque chose, quoi.
Fabriquer des histoires et jouer toutes deux aux jeux interdits. Une nécropole dérisoire, elle jouait toutes deux aux jeux interdits. Elles enterraient tout, la pantoupe pour les croix serties d'épines. Secrète et clandestine. la 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 la. Des fossoyeurs dans la nuit noire, elle jouait toute de rouges interdits. Une nécropole dérisoire, elle jouait.
Vous écoutez Conseil de famille qui est consacré aujourd'hui au jeu. Alors, on poursuit cette discussion. Entre autres, moi, ce que je vois, c'est des fois, c'est des parents qui sont assez démunis, qui ne savent pas quoi faire avec leurs enfants dans des moments un peu particuliers, par exemple dans les transports en commun. Et alors, le réflexe, ça va être eh ben, de balancer le portable avec des jeux, tout de suite, mais même tout petit, hein, dans les poussettes, de les mettre devant ces écrans le temps de, voilà, le temps du voyage, le temps de la poussette, le temps d'aller jusqu'à l'école, des fois, ou d'en revenir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ces écrans ont remplacé les jeux plus classiques, plus... Alors, Béatrice,
ils peuvent les remplacer dans certains cas. En tout cas, on peut être tenté de substituer tous ces jeux symboliques par ça, parce que effectivement, ça permet de canaliser l'enfant, parce qu'on n'a pas toujours le temps de jouer avec lui, parce que on est très occupé, parce qu'on a beaucoup de travail. Mais on sait maintenant que voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites aussi dans les médias, qu'il faut faire très attention de pas laisser un enfant tout seul devant les écrans. Jusqu'à 3 ans. Enfin, voilà, il y a des mises en garde qui ont été faites par les spécialistes.
C'est pas d'écran du tout, c'est zéro écran.
C'est
avant
zéro
3 ans.
Écran avant 3 ans, ou en tout cas vraiment très, très accompagné, enfin, d'être vraiment avec l'enfant avant 3 ans. Et c'est utiliser les écrans de façon raisonnable. Alors après, c'est difficile de savoir ce qui est raisonnable ou pas, mais jouer, ça demande de la part des parents un investissement. Voilà, ça veut dire proposer autre chose que les écrans, et c'est pas toujours facile de le faire.
Vassilia, la compagnie des jeux, vous avez des écrans, vous, ou non?
Alors, nous, on s'est pas du tout développé sur l'axe jeux vidéo, pour justement proposer autre chose. Mm-hmm. Maintenant, on aimerait aller vers ça. On est un petit peu vieux. Il faudrait recruter, et puis on manque d'espace, en fait, et de matériel. Mais je pense qu'il y a une éducation, un accompagnement, effectivement, aux jeux vidéo, parce qu'il y a des bons jeux vidéo aussi. Et on peut pas rejeter, en fait, c'est trop présent. Donc, il faut arriver à comprendre, en fait, ce qui est attractif dans certains jeux vidéo. Et comme pour tout, hein, comme les livres, la musique, les jeux de société, arriver à être en proposition d'autres choses. Et je pense qu'il y a vraiment effectivement tout un travail à développer là-dessus. Mais pour revenir à la poussette dans les transports en commun, des fois, il suffit vraiment pas grand-chose. C'est des enfants qui, entre 0 et 3 ans, en fait, là, dans les stades de développement de l'enfant, tous les jeux de manipulation, tous les jeux sensoriels, tous les jeux qui vont leur permettre de découvrir le monde, en fait, vous leur donnez un objet du quotidien qui va lui permettre de s'occuper les mains en lui racontant une histoire ou en inventant ce que peut être cet objet-là ou en transformant l'objet, c'est encore mieux, ou des choses qui vont des lunettes, des objets colorés qui vont nous permettre de regarder le monde différemment. Ça va très vite capter l'attention de l'enfant.
Oui, des clés, des trousseaux de clés, c'est pour les tout petits, hein,
des choses qui font du bruit et oui. Des choses qui
pour les plus grands, on peut inventer un tas de choses au lieu de donner cet écran qui finalement partage pas, enfin on n'est pas dans le partage là, on donne l'écran pour l'occuper et on partage pas un moment avec l'enfant, à la limite si vous jouez avec lui chacun son tour où il doit aussi vous regarder, enfin déjà il y a plus d'interaction, voilà, mais c'est pas non plus, ça va pas remplacer un jeu où on manipule des choses. Si vous faites sur votre écran un jeu de vélo, vous avez pas appris à faire du vélo, on est bien d'accord. Donc à la fin, voilà. Mais on peut inventer plein de choses avec les enfants en fonction des âges aussi. Les devinettes dans les transports en commun. C'est le premier qui voit une couleur d'or, hein, oui, en bleu.
Qui compte et on les voitures.
On va chercher le plus rapidement quelque chose de bleu. Voilà, il y a un tas de choses qu'on peut... comment ça s'appelle, Pierre, ciseau.
Un chiffomi.
Et souvent, ce qu'on constate, c'est que quand un parent lance ça dans un car, dans un bus, dans un train, etc.,
ça
voilà,
marche.
Par exemple, il y a plein d'autres enfants autour qui veulent participer. Les parents. Voilà. Et en fait, on a, à un moment donné, tout un tas d'enfants qui jouent ensemble, mais
tout,
assis.
Tout le bus joue à Shifumi.
Par exemple. Non, mais voilà, pour les devinettes, par exemple, c'est assez, donc il y a plein de choses qu'on peut inventer. Voilà. On n'est pas obligé non plus de
donner l'écran. Mais les parents sont tout à fait conscients que c'est la facilité, hein, en général.
Voilà. Alors c'est des fois je rejoins ce que tu dis, Béatrice, c'est-à-dire que parfois ça nous sauve, hein, de pouvoir donner un écran à un enfant. Cependant, ayons toujours en conscience dans l'idée que ça nous coupe les uns des autres, les écrans, quel que soit l'âge qu'on a, et que du coup, un enfant qui est sur un écran, il est complètement coupé du monde. Je me souviens de cette pub qui avait été faite, je sais plus par qui, où il y avait un enfant qui était posé dans la salle à manger, dans la maison, sur une tablette en train de jouer. Et pendant ce temps-là, il change le décor de la maison, il change le père, la mère, les frères, les sœurs, etc. Le gamin ne voit rien. Il est sur son écran. Et au moment où il lève le nez de l'écran, il se rend compte qu'autour de lui, c'est plus du tout les mêmes gens, etc. Donc, ça coupe vraiment. Et c'est vrai que, un enfant petit qui est sur un écran, il découvre pas ce qui se passe autour de lui. Il voit pas, il entend pas. Et ce que je vois aussi, je vais en profiter pour faire un petit signe aussi dans l'autre sens. Quand il y a un enfant dans une poussette qui a un écran dans les mains, ok. Mais quand c'est la maman ou le papa qui a l'écran dans les mains, ça coupe aussi le lien, ça coupe la relation. Et en fait, les enfants se retrouvent avec des grandes personnes, avec des parents, qui ne sont plus disponibles émotionnellement à eux, qui sont plus avec eux. Donc, c'est chouette. Et en même temps, ayons conscience de ce que ça peut provoquer dans la relation et dans le développement de l'enfant, bien sûr.
Oui, parce que je rajouterais quand même que voilà, ces temps d'écran, que ce soit le parent ou l'enfant... On n'est pas parlé à ce moment-là.
On n'est pas en lien, mais on est aussi dans l'interaction.
Donc on n'est pas parlé. On n'entend pas. On n'est pas dans l'interaction verbale non plus. Donc dans les développements, plein de développements différents. Là, c'est un exemple. Voilà, sur le développement du langage, on va avoir énormément de retard. Donc forcément, on n'acquiert pas les expériences qu'on a besoin. À certains âges qui sont critiques, d'ailleurs il y a des âges critiques comme ça pour les acquisitions, parce que ils sont pas nourris, ils sont pas stimulés, ils sont pas faits. Donc on a des enfants, après ils arrivent à l'école, ils ne parlent pas, puis
c'est ça.
Voilà.
Alors je voulais, avant qu'on se quitte, deux petites choses. La première, c'était parler des jeux dits genrés. Vous savez, ces poupées qui sont exclusivement destinées aux filles, et puis c'est, comment dire, d'autres choses exclusivement destinées aux garçons. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on trouve toujours ça dans les catalogues pour Noël, dans les, dans les pubs?
Oui, on trouve toujours ça, bien sûr. Il y a une évolution quand même.
Avec les couleurs.
Il y a eu quand même beaucoup d'associations, effectivement, qui ont pointé du doigt les pages bleues, les pages roses. Mm-hmm. On voit une évolution. Ils sont conscients maintenant de ça, mais effectivement, il y a une dimension commerciale très très forte.
Oui, parce qu'on retrouve quand même, par exemple, moi je pense aux licornes. Tout le monde a vu les licornes pour les petites filles avec les arcs-en-ciel. Enfin voilà, ça c'est très très genré quand même.
Complètement.
Je crois que l'aspect commercial rejoint aussi l'aspect social, c'est-à-dire que l'histoire du genre, même si, comme le dit Vassilia, il y a une évolution, on reste encore beaucoup dans... Il y a des jeux de filles, il y a des jeux de garçons, et c'est sûr qu'au niveau commercial, ils sautent beaucoup là-dessus. Mais c'est quelque chose qui continue à courir pas mal, qu'il y aurait des jeux plutôt pour les garçons, plutôt pour les filles. Et c'est vraiment aux adultes d'autoriser, justement, à ce qu'il n'y ait pas des jeux qui soient que pour les filles et des jeux qui soient que pour les garçons.
Et particulièrement peut-être dans la cour des écoles. Hein. C'est important peut-être de permettre aux filles de continuer à jouer au foot, par exemple, et que l'espace ne soit pas exclusivement pris par les garçons. Vassilia, tu voulais dire quelque chose ?
Je voulais rappeler aussi que dans l'histoire, en fait, la poupée était un jeu, quand on en parle à nos grands-mères ou grands-parents, la poupée était un jeu aussi bien joué par les petits garçons que par les petites filles pendant très longtemps. Et il n'y avait aucun problème, en fait. Ça ne posait pas de problème. Et qu'en fait, ça s'est construit, effectivement, quand même, avec le développement de la consommation, en fait. Et c'est la même chose au niveau de la question des couleurs, en fait. Il y a eu des inversions. Le bleu, au niveau, c'est la couleur de la Vierge, en fait. C'était la couleur des filles pendant des siècles, en fait. Et le rose était la couleur qui se rapprochait du sang et donc qui était plutôt une couleur qui n'était pas associée au monde féminin, en fait. Pendant des années, il y a eu des renversements dans les années de... Alors, si ça vous intéresse, il y a une association qui s'appelle Égaligone sur Lyon qui a créé énormément d'outils et qui a fait énormément de recherches sur effectivement l'histoire du jeu par rapport à la question du genre. C'est très intéressant.
Voilà. Et puis vous retrouverez aussi sur le site de cette émission des liens pour voir un petit peu quel jeu adapté à quel âge, etc. Quand peut-être on peut manquer d'idées quelquefois. L'actualité avant de se quitter, Valérie.
Alors juste, je me souviens que j'adorais aussi jouer aux billes, hein, dans la cour de l'école. Voilà. C'est important de le dire, j'adorais ça. Alors l'actualité pour grandir ensemble, et ben c'est les ateliers de parents qui démarrent à l'ODEV, là, parler pour que les enfants écoutent. Et puis une nouveauté, c'est des cycles d'ateliers pour les parents qui s'appellent Parents Partage, où le groupe en présence décidera du thème abordé là. Et alors la grande nouveauté chez Grandir Ensemble, c'est que les ateliers de parents maintenant sont gratuits. Voilà.
Super.
Et aussi sort aujourd'hui une formation en ligne pour les parents. C'est le contenu de l'université de parents qu'on a fabriqué pendant un an et demi avec Ingrid Lebeau autour de l'éducation émotionnelle, l'éducation relationnelle et le rôle des parents dans l'éducation sexuelle des enfants. Voilà, ça sort aujourd'hui. Ça s'appelle Université de parents.
Pour contacter la compagnie des jeux, comment fait-on ?
Alors, on peut venir directement dans notre local, hein, rue de la sous-préfecture, à l'Auder. On est ouvert plusieurs jours par semaine, les mardis et vendredis soirs de 16h à 19h et les mercredis et vendredis matins de 10h à midi pour tous et pour toutes.
Okay.
Et vous nous retrouvez sur compagniedesjeux.org avec tout notre agenda.
Et est-ce que les parents peuvent vous laisser les enfants et partir ?
Une très bonne question, merci. Ce sont des ateliers familiaux. Voilà, donc on n'accueille pas les enfants seuls en dessous de 14 ans.
D'accord. Une petite actualité, mesdames? Non, pas plus que ça. Peut-être un petit conseil avant de se quitter.
Un petit rappel qu'il y a des points accueil écoute jeunes pour les 12-25 ans sur l'ODEV et que les parents peuvent aussi, les parents d'enfants de 0 à 11 ans peuvent venir donc à ces points écoute qui sont gratuits et que pour prendre rendez-vous, il faut appeler le 04 67 03 43 58.
Merci Béatrice Alvar, coordinatrice, je le rappelle, pour l'École des parents et des éducateurs. Nous recevions Vassilia pour la compagnie des jeux. Vassilia Comines-Lacoste, Valérie Orvin de l'association Grandir Ensemble et Anne-Marie pour le PRE, Programme de Réussite Éducative.
Et merci à Laurence Arsac pour la Maison des Adolescents.
Merci Anne qui était à la technique de cette émission. Au revoir à toutes et au revoir à tous. Portez-vous bien et puis n'hésitez pas à jouer. Au revoir.